ça spécial, je suis avec Nicolas.
Allô Nicolas. Ah, oh, ça va. Ça va bien?
Ça va bien. Ça va très bien. Lequel Nicolas qui commence?
Je peux commencer.
Si tu veux commencer. J'ai commencé pour l'introduction.
Vas-y.
Tu es allé à Google Next. On avait fait un peu référence dans les épisodes précédents. Palo présentait 4 nouvelles technologies, notamment avec le AI. Puis comme on est dans le modèle, dans l'ère du temps, on a parlé de Mythos dans notre dernier enregistrement, bien, je crois que c'est très pertinent d'aborder ces volets-là parce que d'un côté, il y a un déploiement rapide des non-contrôlés et ces outils-là permettent de faciliter le travail des gens sans avoir une connaissance nécessairement approfondie en cybersécurité tout en les protégeant. Et je vais te laisser commencer à présenter ça.
Fait que, mais dans les faits, tu sais, c'était mon 4e Google Next. Tu te rappelles, il y a une année, tu étais venu à Vegas, on avait même fait un podcast live.
Yes.
C'était le fun, ça. Fait que c'était mon 4e Google Next. Celui-là, il était un peu différent parce que c'était mon premier que j'étais pas chez, je travaillais plus chez Google. Donc, je l'ai vu un peu différemment, je l'ai vécu un peu différemment. Pour raconter un peu la petite histoire, il y a plusieurs mois avant Google Next, je reçois un appel de Google parce que ça fait partie de mon travail au quotidien d'interfacer entre l'équipe Google et l'équipe Palo Alto. Donc, on me contacte de l'équipe Google, on me mentionne les intégrations que Google désirait travailler avec Palo Alto pour présenter à Google Next. On me rappelle que j'ai un NDA, que je ne peux pas communiquer les annonces et on me communique un peu les intentions de Google pour Google Next. C'était super intéressant. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai travaillé avec nos équipes produits pour se préparer à ça. On avait plusieurs semaines, voire des mois pour faire arriver ça. Donc, les intégrations que Google voulait, c'était principalement par rapport, évidemment, c'est de l'AI, là, c'est beaucoup, beaucoup de l'AI en ce moment, le hot topic chez Google. Puis ce que je vais faire, c'est je vais t'expliquer en gros c'est quoi les grosses modifications que Google a faites sur sa plateforme d'AI Annex. Puis après ça, je vais t'expliquer où est-ce que les intégrations qu'on a développées se plug dessus. Ça va?
Très bien, oui.
Ça marche? All right. Fait que dans les nouvelles annonces que Google a faites à Google Next, premièrement, ils ont formalisé Gemini Enterprise. Donc, Gemini Enterprise est né Agent Space et a été renommé l'année dernière ou l'été dernier Gemini Enterprise. Et maintenant, le nouveau nom, c'est Gemini Enterprise App. Donc, c'est vraiment l'application. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Gemini Enterprise, le user interface, ce que l'humain se connecte, l'interface sur laquelle l'humain se connecte, c'est de ça qu'on parle quand on parle de Gemini Enterprise App. Fait que ça, c'est toi, moi, tu veux utiliser des agents, tu veux utiliser. Tu veux te connecter à des sources de données, à des connecteurs sur SharePoint, sur tes courriels, sur Outlook, name it, ben, tu as besoin de cette interface-là. Puis ça, c'est Gemini Enterprise Apps. Donc là, la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que ça devient notre point d'entrée pour une des intégrations qu'on a lancées à Next. La deuxième chose qui a été changée, c'est Vertex AI n'existe plus. Ils ont rebrandé Vertex AI comme étant Gemini Enterprise Agent Platform. Donc, c'est maintenant la nouvelle appellation de Gemini Enterprise. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est dans tous les cas, dès que tu utilises de l'AI chez Google, ça s'appelle Gemini Enterprise. Dès que tu utilises de l'AI pour les entreprises, c'est Gemini Enterprise. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est le volet End User, donc Gemini Enterprise Apps. Et en dessous, la partie Cloud, Gemini Enterprise AI Platform, qui vient remplacer Vertex. Long story short, c'est ça.
So far, so good.
So far, so good. Ça marche. Donc, dans les intégrations que Palo a annoncées, on en a lancé 4. Il y a un blog. Je ne divulgue rien de privé. Il y a un blog. Vous pouvez aller le lire. Le premier qu'on a lancé, c'est Prisma AIRS sur Agent Gateway. Okay. Google a, dans sa nouvelle architecture, Google a lancé quelque chose qui s'appelle Agent Cloud, qui est la nouvelle plateforme pour rouler des agents sur leur cloud. À l'intérieur de cette plateforme-là, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle Agent Gateway. Agent Gateway chez Google, c'est essentiellement une fonction qui est à même toutes les ILB, les Internal Load Balancer de Google qui sont utilisés pour rouler des agents. Ça permet de capturer ou d'insérer des fonctions diverses pas juste de sécurité, mais toutes sortes de choses. Ça te permet d'insérer ça entre deux agents qui se jasent ou entre l'usager qui utilise Gemini Enterprise App et son agent. Donc, Agent Gateway devient vraiment un point que tu peux plugger de la technologie, soit de la technologie de Google, donc de la technologie native à Google, ou la technologie de third party, comme nous. C'est ça qu'on a annoncé. Donc, on a annoncé une intégration qui permettait d'avoir le AI Runtime de Prisma AIRS, puis de l'insérer dans le flux de communication entre deux agents, ou entre un agent et son serveur MCP, ou entre un agent et son outil extérieur.
C'est très intéressant parce que, puis un peu ce que je mentionnais en préambule, ça permet de retirer des mains des développeurs ou des gens qui veulent faire ce genre d'intégration-là. La nécessité d'avoir la connaissance pour protéger adéquatement ces différents agents-là, on le voit déjà largement sur le marché. Ces vulnérabilités-là sont multiples, sont partout, c'est compliqué. Et ça se développe à chaque jour, donc c'est beaucoup plus avantageux d'avoir une porte commune, une façon simple de rajouter ou juste d'avoir une case à cocher. C'est, hey, je veux maintenant que tout soit vérifié avec l'état de l'art sur ce qu'en est fait vraiment.
Non, c'est vraiment ça, hein, parce que avant, tu avais n'importe quel développeur d'AI, lui, il allait littéralement programmer son agent en disant « Tu es un agent qui fait, mettons, du underwriting ou qui fait de la validation de crédit ou qui fait de la n'importe quoi. » Puis tu lui donnais des instructions, tu lui donnais des outils, puis là, tu lui donnais des skills. Puis si tu voulais le sécuriser, puis tu voulais rajouter une couche de sécurité là-dessus au niveau du... valider les guardrails, s'assurer qu'il n'y a pas de discours haineux, s'assurer que tu n'as pas de DLP, de données qui... C'était quoi tes choix? Il fallait que tu le codes. Il fallait que tu lui donnes des instructions spécifiques. Le défi, c'est avec la prolifération des agents. Des agents, tu vas en avoir des milliers. Donc, c'est soit tu sécurises l'infrastructure avec des points centraux, comme en utilisant Agent Gateway, ou soit tu t'attends à ce que tes développeurs n'oublient pas, ou t'espères que tes développeurs n'oublient pas de rajouter les fonctions de sécurité. Moi, j'aime beaucoup mieux la première version, puis c'est ça qu'Agent Gateway fait.
Oui, puis ça rajoute le fait, puis pas que les développeurs sont nécessairement mal intentionnés ou pas connaissants. Ça. Ils ont toujours des places à l'erreur, toujours des places à la distraction. Ça se multiplie, ces éléments-là, et d'avoir un passage obligé qui permet justement d'appliquer ces contrôles-là. Mais justement, s'assurer que d'un point de vue, puis même conformité à entreprise, on est capable de s'assurer qu'il n'y a pas d'informations sensibles qui circulent ou qu'il y a des mauvais usages de cette plateforme-là qui peut être faite. Puis, donne un peu, à la limite, un peu plus de liberté aux développeurs de se concentrer sur des éléments à valeur ajoutée, puis de déléguer au gateway toute la tâche de vérifier que la sécurité. Et l'avantage secondaire, c'est comme la technologie avance, votre technologie avance, ben, le bénéfice va aller avec le temps. Donc, dans 6 mois, ça va être l'état de l'art qui va être accessible, puis ça va continuer à progresser. Lui que le développeur doit rajouter ses coffres de contexte, rajouter les contextes pour s'assurer de rajouter la nouvelle saveur du jour d'attaque qui finalement peut faire quelque chose ou est dangereuse pour l'infrastructure ou whatever.
Je suis allé écouter le keynote, le breakout session pour Agent Gateway spécifiquement. C'est vraiment intéressant. Hein. Tu peux insérer essentiellement trois grands axes. Le premier, c'est l'identité. Le deuxième, c'est le runtime, donc vraiment un firewall AI. Puis le troisième, c'est au niveau de l'observabilité. Parce que là, tu vas être capable, si tu as deux agents qui se parlent, tu vas être capable, si jamais il y a des problèmes soit de performance ou soit des trucs qui cassent, ben, tu vas être capable de le tracer. Il y a toute une traçabilité en arrière de ça. Puis Google a bâti Agent Gateway autour de ces trois piliers-là. Fait que ça, c'est super intéressant. Pour le moment, ils ont ouvert la porte juste au third party pour l'identité puis pour le runtime. L'observabilité pour le moment n'est pas ouverte au tiers. Je présume que ça va finir par être disponible. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut redonner le contrôle de la sécurité aux équipes de sécurité. Peu importe à qui tu parles, n'importe quel CISO, le concern numéro un pour la cyber au niveau de l'AI, c'est le shadow AI, c'est d'avoir des usagers ou des développeurs qui utilisent des outils d'AI ou qui pourraient mettre à risque l'entreprise. C'est vraiment le concern numéro un. Peu importe à qui tu parles, c'est ça. Shadow AI, une fois que tu reprends contrôle, une fois que tu as ton infrastructure cloud comme Gemini Enterprise, puis là, tu en force, toi, comme équipe de sécurité, tu dis peu importe ce que mes développeurs vont faire, j'ai des politiques d'entreprise là-dessus. Hey, là, tu fais rien de régler un paquet de problèmes.
Oui, effectivement, il y a des gains énormes par rapport à déployer cette technologie, puis ça va faire que les ciseaux vont probablement beaucoup mieux dormir.
Oui, je suis convaincu.
Dans les prochains mois, d'ailleurs, tout ça dans les mains. Si on passe au deuxième, qui est quand même aussi très intéressant, puisque beaucoup, puis ça, tu m'as surpris quand tu me l'as mentionné, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent des modèles qui sont sur Hugging Face notamment. Et donc, ça permet de venir agir sur cet usage-là qui est finalement plus répandu que j'avais.
Il y a, dans les faits, quand tu regardes l'écosystème de modèles, tu as essentiellement trois façons d'avoir des modèles. Tu as les modèles Frontier AI, donc ça, c'est les grands, là, les Gemma, les Google, les Anthropic, OpenAI, Mistral et compagnie qui déploient des modèles gargantuesques en entraînement, en taille, en coût d'inférence. Ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon, c'est que tu entraînes ton propre modèle. Donc, tu as des données, tu as un jeu de données, tu vas te l'entraîner. Et la dernière façon, c'est bien, s'il y a certains modèles très spécialisés, des modèles qui ne sont pas nécessairement comme les gros Frontier AI, où est-ce que bien, c'est des milliards de paramètres, c'est des modèles très gros qui coûtent très cher à opérer. Des fois, tu as juste besoin d'avoir quelque chose de plus petit, plus spécifique, parce que tu veux faire un agent qui ne fait qu'une chose, elle le fait excessivement bien. Tu n'as pas nécessairement besoin d'envoyer Opus 4.7 là-dessus, puis de payer 25$ du million de tokens. Tu vas être capable de le rouler localement. Il y a certains cas d'usage comme ça. À ce moment-là, la meilleure place, c'est de prendre un modèle qui est sur Hugging Face. Les modèles sur Hugging Face, c'est de la communauté open source. N'importe qui peut l'avoir fait. Il y a certains modèles que tu n'as aucune idée c'est qui l'a publié. Est-ce que ces personnes-là ont caché des kill switches dans le modèle? Est-ce qu'ils ont caché des vulnérabilités? Est-ce qu'ils ont entraîné avec des données qui pourraient ne pas être... Il y a plein de questions qui sortent de là.
Puis même une supplémentaire que tu n'as pas mentionné, c'est qu'on est capable de cacher du code Python. Puis ça, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Tu es capable de cacher du code Python dans le modèle, pas dans le modèle entraîné. Mais comme le modèle entraîné vit dans une enveloppe, cette enveloppe-là peut contenir du code méchant là-dedans. Là.
Ouais, ça c'est le pickle file, les vulnérabilités qui sont dans le truc, effectivement. Fait que tu sais, c'est. Maintenant, toi, c'est soit tu l'entraînes, puis là tu dépenses les millions qui vont avec, ou tu prends ça sur Hugging Face. Mais là, si tu le prends sur Hugging Face, c'est pas tout qui est bon. Comment tu fais pour savoir que c'est correct ce modèle-là, qu'il n'y a pas des vulnérabilités en Python dedans. Palo Alto a quelque chose qui s'appelle le model scanning. Donc, ce qu'on a lancé à Google Next, le deuxième, c'est un agent qui sert uniquement à scanner les modèles, soit sur Hugging Face ou soit sur un repo, sur ton registry de modèles. Donc, dans le fond, tu vas l'interfacer, cet agent-là, tu vas l'interfacer avec Gemini Enterprise Apps. Donc là, je reviens à la première version de l'application, qui est essentiellement ton UI. Fait que là, dans ton UI, tu vas avoir un agent pour tes courriels, tu vas avoir un agent pour ton... Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Tu vas avoir un autre agent peut-être pour booker tes vacances ou faire ton compte de dépenses. Et tu vas avoir un agent pour scanner les modèles que tu as. Donc, tu l'inclus dans ton SDLC, là, ton Software Development Lifecycle Platform. Tu vas l'inclure là-dedans. Puis ça va devenir une tâche en disant je veux déployer ce modèle-là. Peux-tu vérifier s'il est correct? Dans les faits, tu vas demander à l'agent de scanner des modèles sur Hugging Face ou scanner des modèles sur un drive, par exemple.
Justement, aller détecter s'il est mal entraîné, s'il y a des choses à côté, s'il y a des choses qui traînent ou il y a des éléments que tu ne voudrais pas avoir dans ton infrastructure, justement, pour pas le. Ça, parce que quand tu le ramènes là, dans la façon dont tu le mentionnes, tu le ramènes quand même dans ton infrastructure cloud, donc tu l'amènes à proximité de toi et de tes données sensibles. Fait que tu ne veux pas avoir quelque chose qui puisse soit les exfiltrer, soit faire n'importe quoi qui n'est pas attendu. Là.
Exact. Puis Google a annoncé à Next, ils ont annoncé un Agent as a Service Marketplace. Donc tu peux maintenant, sur le marketplace de Google, t'abonner à des agents. Donc, tu sais, tu pouvais depuis toujours télécharger n'importe quel logiciel, mais là maintenant, tu peux aussi le faire. Pour des agents. Donc, un agent as a service. Là, tantôt, on faisait des petites jokes sur la nouvelle terminologie, là, mais pour la petite histoire, ce que Google a annoncé, on avait déjà le IaaS, l'Infrastructure as a Service, on avait le PaaS, Platform as a Service, on avait le SaaS, Software as a Service, et maintenant, ce qui a été annoncé, c'est le Agent as a Service, ou AS. Quand c'est infini de jokes qu'on pourrait faire là-dessus.
On va arrêter là.
On va arrêter là.
Mais, ça pourrait devenir de ça.
Mais, dans les, mais quand ils ont lancé cette, ce marketplace-là, on a été parmi les launch partners. Mais il y en a eu 70 autres aussi. Tu sais, quand j'ai vu le blog le matin de Next qui a été annoncé, puis j'ai réalisé rapidement, moi, nous, on m'avait dit qu'on était, on faisait partie des partenaires de lancement pour l'Agent as a Service Marketplace. Je savais pas c'était qui les autres, évidemment. Mais quand j'ai vu le blog le matin même de Google Next, je me rappelle, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Là, je reçois un texto qui dit « Hey, le blog est live », puis là, je suis allé le regarder, puis là, je vois « Oh boy, OK ». Ils avaient mis par ordre alphabétique, Palo Alto, tu sais, tu peux imaginer qu'on était dans le fond de la liste. Il a fallu que je scroll sur un moyen temps sur mon cell pour. Fait que tu sais, je pense que cette idée-là d'avoir des agents disponibles sur Gemini Enterprise, on est vraiment juste au début. T'imagines-tu, là, nous, on en a lancé un, mais quand tu réfléchis à ça, Prisma Airs, le modèle scanning, c'est un des six piliers de Prisma Airs 3.0. Là. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qu'on pourrait faire. Fait que, tu sais, je suis très curieux de voir nous autres dans le futur qu'est-ce qui va faire, mais je suis convaincu que ce n'est pas le dernier agent qu'on lance sur le marketplace.
Ouais, sûrement, puis ça loue des opportunités. Puis, je trouve ça très le fun. Puis on faisait référence justement dans le podcast là, sur Sense, justement, toute cette innovation-là et cette façon-là que ces grands cladeurs-là permettent l'innovation. Puis c'est très important de voir puis de pour permettre, puis ça va faire avancer. Vous allez bénéficier de ça, vous allez réfléchir à l'interne et c'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses qui vont émerger. Vous et comme les autres aussi d'ailleurs, il va y avoir beaucoup d'opportunités qui sont ouvertes par ça. Là.
Qu'est-ce que je pourrais dire avant qu'on passe au prochain? Une dernière petite affaire qui est intéressante, c'est que le scanning, le model scanning agent, il roule dans, même si c'est un as a service, le gateway roule sur le tenant du client. Fait que la donnée reste sur l'infrastructure du client. Ça, c'est intéressant d'un point de vue sécurité parce que tu gardes le contrôle sur l'interfaçage puis qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui sort de l'agent.
Le troisième, qui est plus infrastructure classique dans ce cas-ci. Oh. Mais quand même, même si l'AI prend toute la place, on a quand même besoin d'infrastructures plus classiques, plus au niveau du malware dans ce cas-ci. Mais je vais te laisser en parler.
Quand les faits, là, c'est oui, l'AI prend de la place, mais on a souvent, les use cases font en sorte qu'on a besoin d'un outil plus classique pour sécuriser l'AI. On en avait déjà parlé dans un autre podcast, notre technologie de pare-feu. Elle est utilisée par Google pour son propre cloud Next Generation Firewall, son propre outil. Donc, dans les faits, c'est des VM de Palo qui sont utilisées, maintenues, opérées, déployées par Google, comme un modèle OEM. Ça fait plusieurs années que ça existe. Donc, ça s'appelait Cloud NGFW Enterprise. Ils utilisaient notre Threat Prevention, puis c'était notre coquille de VM qui est en dessous. Ce qu'ils ont annoncé à Google Next, c'est que là, non seulement ils utilisent Threat Protection de Palo, mais ils vont maintenant commencer à utiliser Wildfire. Donc, ils ont annoncé qu'ils lançaient Advanced Malware Sandboxing. C'est une fonctionnalité qui, dans les faits, c'est un service géré de Wildfire. Fait que si tu as des données qui rentrent et qui sortent au niveau réseau, donc sur des containers Kubernetes ou sur n'importe quel flux network, ben on est capable de capturer ça. Puis en quoi ça s'applique à l'AI, c'est qu'il y a beaucoup d'agents d'AI qui communiquent des données, des fichiers. Donc, quand tu as un agent puis tu dois uploader ou downloader des documents, si tu uploades des documents à travers un agent, mais ces documents-là vont finir sur un serveur quelque part, vont finir dans un dépôt de documents. Donc, mais tu vas l'interfacer à travers ton agent d'AI. Bien là, si tu es capable d'avoir du Advanced Malware Sandboxing, ça veut dire que si jamais le document que tu uploads à travers Gemini Enterprise, c'est un fichier qui a un exécutable ou un exploit dans le fichier doc, là, ou dans ce PDF-là, bien là, Gemini Cloud NGFW Enterprise va pouvoir prendre ça, le détonner dans un sandbox, vérifier qu'il n'y a pas d'exploit, pour pouvoir le storer de façon sécuritaire après. Comme ça, si quelqu'un d'autre accède à ce fichier-là, t'sais, si, mettons, c'est un call center, puis là, ou n'importe quel agent qui va aller regarder les documents que toi, tu as uploadés, cliquer là-dessus, bien, s'il y a un exploit, ça va le faire. Mais avec Wildfire, on va être capable de détecter si c'est un fichier qu'on avait déjà vu. Il y a une grosse y a un gros problématique en ce moment avec les malwares qui sont du AI generated malware. Fait que tu te ramasses avec des nouveaux malwares qui sont créés on the fly pour un use case spécifique, pour un client spécifique, quelque chose qui n'a jamais été vu avant. Fait que ça devient un enjeu qu'on adresse avec ça.
Ouais, c'est intéressant. De toute façon, sandboxing, c'est une belle technologie. Ça, j'aime bien ça, justement, pour permettre d'intercepter cette nouvelle façon-là de créer on the fly. Ça se faisait déjà manuellement avant. Maintenant, c'est industrialisé avec l'AI, la capacité de créer des choses custom. Fait que c'est un peu fou.
C'est cloud native.
Oui, ça, c'est essentiel. Surtout dans des contextes, j'aime bien l'exemple que tu as mentionné parce que celui-ci met en perspective le fait qu'on vit dans un monde d'instantanéité. On n'a pas tellement le temps de tester. Puis les fichiers arrivent, sont traités. Il y a des agents, il y a des humains qui le traitent. Il faut que ça soit propre de bout en bout, sinon ça va nous exploser un peu partout, effectivement.
La dernière annonce qu'on a annoncée, Google avait déjà quelque chose qui s'appelle Application Design Center, donc ADC. Application Design Center, ce que ça permettait de faire, c'est à l'intérieur de la console cloud, si tu étais un développeur puis tu voulais assembler des fonctions de Google pour créer une application. Là, quand tu parles de fonctions de Google, c'est mettons, tu voulais prendre un container qui roule sur Cloud Run, qui se connecte sur PubSub pour envoyer les données sur, mettons, un BigQuery qui retourne ça. T'sais, donc, un assemblage de fonctions de Google. Ce que Google a annoncé cette année à Google Next, c'est qu'ils ont ouvert ADC, donc Application Design Center, ils ont ouvert ça aux third parties comme nous. Puis on a travaillé avec eux dans les derniers mois à rendre l'insertion de pare-feu à l'intérieur de ce flow.
C'est du low code là, dans les faits.
Exact, c'est ça. Fait que dans les faits, c'est une bonne analogie, c'est exactement ce que c'est. Donc, ça permet à des développeurs qui ne comprennent pas nécessairement la technologie de pare-feu, parce que c'est, historiquement, ça vient des gens d'infrastructure ou des gens qui gèrent les pare-feux qui essayent d'appliquer ça sur le cloud, mais les développeurs ne sont pas tant conscients ou sensibilisés à ces besoins-là puis toutes les raisons qui font que tu as besoin de cette technologie-là. Et là, on va faciliter leur vie. Parce que là, ils vont pouvoir dire, j'ai maintenant un Cloud Run qui parle à PubSub, qui parle à une autre application. Je vais rajouter. Il y a un genre de template Palo Alto qu'on a déployé là-dedans. Puis au final, tu fais ton agencement. Puis une fois que tu es satisfait de ta config, tu pèses un Python. Puis là, ça va générer un code Terraform qui va inclure aussi le Terraform de, mettons, les load balancers pour remplir Palo ou l'été pare-feu.
C'est très intéressant, puis ça permet de démocratiser l'usage d'outils de sécurité. Puis c'est un problème qui est historique dans notre domaine, là, c'est que si on est un peu hermétique en termes d'outils, si on est capable de justement démocratiser davantage ces outils-là par ces façons-là, justement pour favoriser des meilleures pratiques, des meilleures façons de faire, on ne peut pas être en désaccord avec cette approche-là parce que là, on va mettre dans les mains des gens qui ont moins de connaissances en cyber, des outils de cyber. Ouais. Puis qu'on n'a pas besoin d'avoir la connaissance et toute la complexité inhérente.
Fait qu'en gros, je te dirais, c'est ça les quatre intégrations qu'on a lancées à Google Next, que j'ai travaillé comme un fou dans les mois qui ont précédé l'événement. Là, dans les prochains mois, on va continuer de capitaliser là-dessus. J'ai hâte qu'on fasse la suite là-dessus. Il y a des grosses annonces qui s'en viennent.
Super. Merci beaucoup.
Merci, Nicolas.
Salut. À plus.